Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet.
Bonjour à toutes et à tous. Ouk anankaya ta grammata, pour celui qui est saint d'esprit, les lettres ne sont pas nécessaires. C'est ainsi que concluait Antoine dans la vie d'Antoine d'Athanase, une joute oratoire ou une joute, disons, qu'il avait avec des visiteurs qui venaient lui dire « mais le savoir, c'est important » et donc les lettres ne sont pas nécessaires. Et donc, j'avais terminé le cours dernier en vous disant qu'on ne pouvait pas mieux résumer l'inutilité ou affirmer l'inutilité de la culture écrite et donc de son acquisition. Alors, c'est une idée que l'on retrouve fréquemment dans les apophthegmes, hein, cet autre, les apophthegmes des Pères du désert, cette autre œuvre qui n'a pas peu contribué à la construction de l'image du moine idéal. À côté de bien d'autres, eh bien, on y retrouve Antoine renonçant au savoir des philosophes, avec cet apophthegme que vous avez à l'écran. Des vieillards vinrent un jour chez Abba Antoine. Parmi eux se trouvait Abba Joseph. Voulant les éprouver, le vieillard proposa une parole de l'Écriture et se mit à leur demander, en commençant par les plus jeunes, ce que signifiait cette parole. Et chacun parlait selon qu'il en était capable. Et à chacun, le vieillard disait « Non, tu n'as pas encore trouvé ». Ensuite, il dit à Abba Joseph « Toi, comment expliques-tu cette parole ?» Il répondit « Je ne sais pas ». Abba Antoine dit « Vraiment, Abba Joseph a trouvé la voie, car il a dit « Je ne sais pas ». Alors, on comparera cet apophthegme à un autre concernant Arsène. Vous vous en souvenez peut-être, hein, j'en ai parlé la semaine dernière, j'ai cité la semaine dernière deux apophthegmes d'Arsène. Alors, voilà l'apophthegme que je voudrais vous présenter. Abba Daniel raconta du même Abba Arsène qu'il ne voulut jamais répondre à une question sur l'écriture, bien qu'il en fût capable, s'il avait voulu. De même, n'écrivait-il pas facilement de lettres ? Et lorsque de temps en temps il venait à l'église, il s'asseyait derrière le pilier afin qu'on ne voit pas son visage et que lui-même ne fasse pas attention à autrui. Alors voyez, j'arrête là, l'apophthegme continue. Arsène refuse l'exégèse, même biblique, ainsi que la pratique de l'écriture épistolaire, hein, qui est un des piliers de la communication écrite à cette époque. C'est donc un rejet des grammata tels qu'ils étaient enseignés à l'école, puisque l'écriture et l'explication de textes formaient la base, on l'a vu hein, l'an dernier, de la pédagogie scolaire. Alors, si une telle attitude est bien dans la ligne de ce qu'Athanase nous dit de l'absence de formation d'Antoine, eh bien, elle est plus étrange et acquiert par là même une valeur fortement paradigmatique. Elle est plus étrange, c'est Arsène, dont nous avons vu la semaine dernière, qu'il possédait, hein, dans un apophthegme que j'avais cité la semaine dernière, qu'il possédait, je cite, une éducation romaine et grecque, c'est-à-dire qu'il connaissait le latin et le grec, et donc la littérature, évidemment, latine et grecque. De fait, Arsène, comme le raconte la suite de cet apophthegme, est un personnage fameux, connu, éminent, fils d'une famille romaine sénatoriale qui, de ce fait, avait reçu une excellente éducation. Il avait ensuite exercé de hautes fonctions à la cour impériale, à Constantinople, et fut même, à la demande de Théodose Ier, le précepteur des futurs empereurs Arcadius et Honorius. Tout cela avant de fuir le monde en 394, en se retirant dans le désert de Cétée. Alors, il sera souvent question, hein, il est souvent question évidemment dans ces apophthegmes du désert et du désert de Cétée. Hein, donc voici sur une carte où se trouve ce désert, hein, voyez, dans la partie désertique sous la partie occidentale du delta. Est-ce qu'Arsène a pour autant renoncé au prestige des lettres, comme le laisserait entendre les dits qui lui sont attribués ? En fait, non. Non, il fut l'auteur de plusieurs écrits, de commentaires aux Écritures, d'un écrit parénétique, ainsi que, notamment, et pour faire justement écho à l'apophthegme que je viens de vous lire sur la répugnance qu'il avait à écrire des lettres, eh bien, il a laissé une lettre parvenue en version géorgienne. Alors, l'exemple d'Arsène montre, s'il en était besoin, combien cet anti-intellectualisme et ce rejet des lettres est une posture correspondant à un idéal d'ascétisme. L'ascète ne doit pas être éduqué, mais ne doit pas être éduqué, je veux dire, par les hommes ou des hommes, mais seulement de Dieu, hein, comme le dit d'ailleurs Antoine, Athanase d'Antoine, dans un passage de sa vie, en reprenant le mot biblique de théodidactos, hein, éduqué de Dieu, éduqué par Dieu, hein, qu'on retrouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, vous avez bien sûr bien senti tout ce qu'il y a de stéréotypé dans cette vision de la culture chez les tenants du monachisme, telle qu'elle est véhiculée par la vie d'Antoine ou par les apophthegmes des Pères du désert. D'ailleurs, les études récentes sur Antoine ont réhabilité la formation et la culture d'Antoine. Par exemple, dans l'ouvrage qu'il a consacré aux lettres d'Antoine, Samuel Rubenson écrit-il que, et je le cite, hein, elles doivent être attribuées à un leader monastique d'importance, bien formé et au fait des idées philosophiques de son temps. Et son introduction dans ce livre pose bien le problème. Je le cite, hein, « Le contenu des lettres est difficile à concilier avec l'image traditionnelle d'Antoine et la tradition monastique primitive tirée de la Vita et des apophthegmata et d'autres sources. Sa dépendance évidente à l'égard de la philosophie platonicienne populaire et de la tradition théologique alexandrine révèle que leur auteur n'était pas un moine ignorant qui avait simplement troqué l'habit du paysan pour l'habit monastique, mais un enseignant qui portait l'habit de moine comme s'il s'agissait d'une robe de philosophe. Dans ses exhortations, il pousse ses correspondants à se connaître eux-mêmes et à méditer sur leur essence spirituelle. Et son exégèse allégorique fait de lui un disciple de l'école d'Origène. Compte tenu de l'image d'Antoine en tant que supporter saint mais simple d'esprit d'Athanase et celle du monachisme égyptien théologiquement naïf, les érudits ont soit rejeté l'authenticité des lettres, soit tacitement évité le problème qu'elles posent à la tradition bien établie. Si les lettres sont authentiques, elles nous obligent à redessiner non seulement l'image d'Antoine, mais aussi une grande partie de l'image établie du monachisme égyptien primitif. Alors, Rubenson continue, mais vous voyez que pour lui, en fait, rien, il le dit plus tard et à la fin, tout au long de cet ouvrage, rien ne permet de nier l'authenticité des lettres. La grande spécialiste du monachisme égyptien, Eva Wyszypska, suit dans ses grandes lignes les conclusions de Rubenson sur la culture d'Antoine, tout en ayant des doutes sur sa connaissance de la langue grecque, hein, connaissance que lui prête aussi Rubenson et qui se heurte au témoignage d'Antoine et de Pallade, ou d'Athanase et de Pallade. Alors, je ne reviendrai pas ici sur la question, elle aussi très controversée, du bilinguisme gréco-copte des moines égyptiens, question que j'ai traitée dans mon cours de 2017. Toujours est-il que la géographie à travers les apophthegmes et les vies prises à la lettre aboutit en fait à des caricatures. Et là, j'utilise un mot qui a été récemment employé par Liliane Larsen dans un article « Excavating the excavation of early monastic education » dans ce livre que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter et qu'elle a co-édité avec Rubenson, hein, « Monastic Education in Late Antiquity ». Alors, il faut noter cependant que ce topos, ce stéréotype, n'est pas le propre des hagiographies, hein, dont l'intention, évidemment, est souvent de moins de décrire une réalité que de mettre en avant des valeurs, de forger des exemplats, des modèles. Ce topos, on le retrouve sous des formes diverses chez des historiens comme Sozomède ou comme Socrate, le scolastique. Alors, Il est vrai que ceux-ci n'échappaient pas à l'emprise des exemplars et qu'ils examinaient aussi le passé au crible des valeurs et de présupposés. Alors, en témoigne justement le prologue que Sozomen consacre au moine dans son histoire ecclésiastique qui reprend l'opposition développée par Athanase dans la vie d'Antoine entre vertu monastique et savoir, là encore tiré du côté de la rhétorique et de la dialectique. Je vous cite le passage. « Les hommes qui surtout illustrèrent l'Église et soutinrent le dogme par les vertus de leur vie furent ceux qui alors pratiquaient la manière de vivre des moines. Descendus de Dieu chez les hommes comme une chose tout à fait utile, ce genre de vie philosophique se désintéresse de la polymathie, alors le grec dit de nombreuses connaissances, hein, mathématone, polone, donc se désintéresse de la polymathie et de l'art dialectique, dialectiques, technologias, dit le texte, considéré comme superflu, enlevant le loisir qu'on peut consacrer à des occupations meilleures et ne contribuant en rien à la rectitude de la conduite. C'est seulement par ce que dicte la nature en sa simplicité que cette philosophie enseigne ce qui supprime entièrement le vice ou le modère. » Vous voyez, il y a toujours cette opposition entre simplicité du moine et savoir inutile de l'intellectuel, mais vous noterez ici le renversement tout à fait savoureux. L'anti-intellectualisme des moines est devenu une philosophie. Le texte grec, ce qui est traduit par festugère, par vie philosophique, est en grec philosophia. Alors, Sozomen semble, de son côté, sortir du stéréotype de rigueur dans son livre 8 de son histoire ecclésiastique, à l'occasion de l'affaire des longs frères, sous le patriarcat de Théophile, donc on est autour de 400. C'est une affaire qui, au sujet de l'origénisme, l'enseignement d'Origène, qui a beaucoup fait parler à cette époque, une affaire donc qui, à ce sujet-là, oppose Théophile et ses partisans pro-origénistes, parmi lesquels justement les moines Dioscore, Ammonios, Euseb et Eutymios, qu'on appelle les longs frères, et qui les oppose donc aux moines de Cété, qui eux étaient anti-origénistes. Alors, Sozomen décrit le comportement de la masse des moines, monachikon pléthos, et en utilisant ce terme de pléthos, il donne l'impression de quelque chose un petit peu indistinct et pas très recommandable, comme des personnes incapables de discuter et d'argumenter, et en venant tout de suite aux insultes. Voilà un passage. « Il en résulta une terrible querelle chez les moines, avec les discussions sans ordre qu'ils soulevaient entre eux. Ils ne cherchaient pas à se persuader mutuellement, mais ils en venaient aux insultes. » Et là, vous avez, là encore, un très beau renversement, puisque le terme « dialexis », qui est normalement la dialectique, ou qui est le discours ordonné, c'est un terme aussi qu'on utilise pour des cours ou des conférences, eh bien, le terme « dialexis » est ici pris de façon négative, puisque les moines, en fait, discutent sans ordre. L'historien montre la face négative de cette absence de formation dialectique qu'il avait présenté dans son livre 1 comme un idéal ascétique. Socrate, de son côté, tout en faisant la différence entre les moines cultivés, par exemple les longs frères, et les incultes, semble associer l'absence d'éducation au concept positif d'unité ecclésiastique. Dans le chapitre qu'il consacre aux moines d'Égypte, c'est dans son Histoire ecclésiastique, livre 4, paragraphe ou section 23, eh bien, il dresse des portraits de moines illettrés, par exemple Pambo, qui est agrammatos, illettré, de moines lettrés comme Pitérus, en 25. Il dit qu'il connaissait beaucoup de doctrines de physique, pola théorémata, physica. Et il termine par celui assez complexe d'Évagre,
moine érudit, auteur d'une œuvre écrite, dont Socrate nous dit qu'il acquit la philosophie par la pratique, lui qui auparavant n'était philosophe qu'en parole. Et là encore, vous avez cette opposition de la philosophie des beaux parleurs et puis la philosophie active des moines qui la pratiquent par la vertu. Et c'est une opposition qu'il développe en des termes très platoniciens, où il nous explique que Évagre a développé une sorte de philosophie de la non-raison. Mais comme je le disais, en des termes très, très platoniciens, regardez la phrase, hein, la tâche de la prudence, disait-il, donc c'est Évagre qui parle, est de contempler les puissances intelligentes et saintes indépendamment de leur raison, dika ton logon. On retrouve la figure paradoxale du moine philosophe, mais prônant une sorte d'anti-philosophie. Alors l'inculture monastique, perçue comme propre à maintenir l'unité de l'Église en lui épargnant les controverses, fermant, vous le savez, à cette époque de dissension et d'hérésie, est aussi une idée que Cyrille, le successeur de Théophile sur le trône épiscopal d'Alexandrie, justifie dans sa lettre aux moines, son Epistula ad Monachos, lettre écrite après qu'une controverse née à Constantinople se fut répandue aussi en Égypte en 429, déclenchant des réactions passionnées. Alors, voici le texte. Comment donc ne pas savoir que votre manière de vivre, il s'adresse aux moines, est illustre et admirable et que votre foi vraie et sincère repose sur un fondement sûr. Mais, je suis plus que troublé parce que j'ai appris que des bruits dangereux sont parvenus jusqu'à vous et que certains hommes s'acharnent à détruire votre foi simple en crachant une multitude de paroles sans but, en faisant des recherches minutieuses, en demandant si la Sainte Vierge doit ou non être appelée Mère de Dieu. Vous auriez mieux fait de ne pas prêter attention à ces questions que l'on contemple difficilement et que l'on voit comme dans un miroir une énigme pour des gens préparés et les esprits et pour des esprits préparés et les esprits avancés. Autrement, elles ne peuvent pas être considérées. En effet, les subtilités de la spéculation dépassent l'entendement des moins instruits. Mais puisque vous avez entendu de telles discussions et que certains d'entre vous semblent avoir choisi de semer la discorde, enfonçant ce mal comme un pieu dans ceux dont l'esprit n'est pas fermement arrêté, j'ai jugé nécessaire de vous dire quelques mots sur ces questions. Je ne le fais pas pour que vous battiez davantage avec des mots, mais pour que, si on vous attaque, vous puissiez riposter par la vérité contre ces vains discours et éviter les préjudices de l'errement. J'écris aussi pour que vous aidiez d'autres frères, en les persuadant par un raisonnement approprié de conserver dans leur propre âme, comme une perle inestimable, la foi que les apôtres ont transmise d'en haut aux églises. Très beau texte, et vous voyez en fait, que conseille Cyrille dans ce texte? Eh bien, il recommande aux moines de ne pas s'adonner aux spéculations théologiques, qui doivent rester l'apanage des clercs instruits, les subtilités de la spéculation dépassent l'entendement des moins instruits, c'est-à-dire vous les moines. Leur foi, la foi des moines, est trop simple, haplos, dit ce texte, pour qu'ils puissent comprendre correctement. Aussi, pour les aider, dans le cas présent, Cyrille leur donne-t-il ce qu'on appellerait aujourd'hui des éléments de langage, pour qu'ils puissent ensuite discuter contre leurs opposants. Alors, l'adjectif « haplos » que vous avez dans ce texte et qui revient plusieurs fois dans la lettre de Cyrille fait justement partie du vocabulaire relatif aux moines, on l'avait vu, aux moines à la faveur d'un réseau lexical qui relie en fait simplicité à illettrisme et inculture. L'idéal ascétique que s'est forgé la chrétienté des premiers siècles et dans lequel par pragmatisme et par souci de discipline, les autorités ecclésiastiques, on le voit avec Cyrille, semblent avoir cantonné les communautés monastiques, ne prédisposaient pas ces dernières à prôner l'enseignement lettré, ni à, plus forte raison, à se faire eux-mêmes didascaloi, hein, maître d'école, en investissant une part de leur activité dans l'enseignement. Alors voilà qui semble réduire à néant la possible connexion entre monachisme et enseignement, hein, qui est le sujet que je souhaite traiter cette année. Comment, lorsqu'on revendique l'inculture et qu'on la recommande aux moines, peut-on souhaiter l'institutionnaliser sous la forme d'écoles au sein des monastères, ou pire, dans des laures ou des ermitages? Au-delà des exemplats de ces holy men, véhiculés par les textes hagiographiques et préconisés par les exhortations de la hiérarchie ecclésiastique, il nous faut vérifier si cette position de principe, cette posture voulue ou imposée, se traduit véritablement dans les faits par un refus des monastères de s'impliquer dans la païdéia. Donc passons maintenant de l'idéal à la réalité, de la géographie à la situation sur le terrain. Cette situation, avant de l'appréhender à travers les documents livrés par l'archéologie, je pense à papyrus notamment, eh bien, nous pouvons nous en faire une première idée grâce aux règles monastiques qui nous sont parvenues. Nous disposons, pour le monachisme cénobitique, autrement dit, hein, le monachisme des moines qui vivaient en communauté et qui étaient donc les plus susceptibles d'accueillir un enseignement dispensé à plusieurs, nous disposons de règles établies par le fondateur de ce type de monachisme, Pacôme, donc, qui est né à l'extrême fin, aux alentours de 292, et qui est mort en 347. Pacôme qui rassembla à Tabénèse et à Fbo, ou Bo, hein, voyez où ça se situe, hein, je vous ai mis les deux monastères dans un cercle rouge, qui rassembla des milliers de moines et moniales qu'il organisa en maison, en oikoi. Alors avant de citer les règles, les praekepta, il faut que j'en dise quelques mots en guise, je dirais, d'avertissement méthodologique. Alors les règles de Pacôme nous sont parvenues en quatre recueils que nous ne connaissons malheureusement intégralement que par la traduction qu'en donna Jérôme en 404. Hein, c'est un prêtre du nom de Sylvanus qui est venu lui trouver, enfin plus exactement qui lui envoya ces règles de Pacôme d'Alexandrie en lui demandant de les traduire pour les nombreux moines latinophones qui peuplaient les monastères de Thébaïde, hein, que je vous ai montré sur la carte, ainsi que le monastère de la Métanoïa, de la Pénitence, qui se trouve dans le Delta. Alors, l'original grec ne nous est pas parvenu, à l'exception d'extraits, de même que nous n'avons que des fragments de la version copte, mais suffisamment pour permettre une comparaison avec la version hiéronymienne, et mettre en évidence que Jérôme n'a pas toujours fait œuvre de traducteur très fidèle. À cela s'ajoute le fait que, quoi qu'on soit encore loin, hein, d'y voir clair dans la tradition de ces textes, les quatre parties ne sont pas toutes écrites à la même période et ne sont pas toutes originales, mais résultent pour certaines de bricolages et d'ajouts postérieurs à Pacôme. Allez. Alors, les praekepta, qui sont au nombre de 140 règles, sont les plus substantielles, les règles les plus substantielles, et celles qui ont le plus de chances de dater de l'époque de Pacôme. Les praekepta et instituta, qui sont des règles qui s'adressent à l'hebdomadier, hein, ou le chef de la maison, de l'oikos, responsable de l'organisation et de la gestion du travail des moines pendant une semaine, eh bien, ces praekepta et instituta forment une compilation postérieure avec des éléments empruntés au recueil dont je vais parler juste après, et une compilation issue d'un milieu différent des praekepta. Les praekepta et iudiciens concerne la synaxe, donc la célébration eucharistique, et les responsabilités du chef de maison. Et puis vous avez aussi les precepta et leges. Alors, pardon, c'est les precepta et leges hein, qui concernent la synaxe et les responsabilités du chef de maison. Alors pour l'instant, je n'utiliserai que des règles issues de la partie la plus ancienne, c'est-à-dire les precepta. Alors que nous disent justement les precepta sur le problème de la culture lettrée et de son enseignement? Eh bien, qu'elle est indispensable. Je prends le 140. Il n'y aura personne dans le monastère qui n'apprenne à lire et à écrire et ne, alors, hein, non discat literas, et ne mémorise quelque chose des Écritures. Il faut apprendre par cœur au moins le Nouveau Testament et le psautier. Vous ne serez pas étonné de ce choix, ça correspond tout à fait hein, au, disons, au best-seller, j'allais dire, biblique, tels que les papyrus littéraires nous permettent de nous en rendre compte. Hein, j'avais consacré une année de cours sur ce problème. La règle, vous voyez, est claire et sans appel. L'analphabétisme n'est pas permis. Dans le Praeceptum précédent, Pacôme organise concrètement la lutte contre l'analphabétisme, voire l'illettrisme, autrement dit l'instruction des moines. Regardons-le, c'est le 139. Celui qui entre dans le monastère peu instruit se verra d'abord enseigner ce qu'il doit observer. Et lorsque, ainsi instruit, il aura consenti à tout cela, on lui donnera 20 psaumes ou 2 épîtres des apôtres ou quelque autre partie de l'Écriture. S'il est analphabète, il ira à la première, à la troisième et à la sixième heure chez quelqu'un qui s'est enseigné et qui a été désigné pour lui. Il se tiendra devant lui et apprendra très studieusement avec toute la gratitude voulue. Puis, on lui écrira les éléments de la syllabe, les verba et les nomina. Alors, je ne traduis pas pour l'instant, je reviendrai sur ces mots. Et même s'il ne veut pas, on l'obligera à lire. Je ne sais pas comment on fait, mais enfin bon. Alors, vous voyez que dans ce texte, Pacôme examine deux cas. Le moine peu instruit, hein, en latin, rudis, mal dégrossi, qui correspond au grec agroikos, que l'on retrouve souvent associé, hein, au moins dans la littérature dont j'ai eu l'occasion de vous présenter quelques exemples la semaine dernière. C'est le moine donc qui sait déjà lire et écrire, mais qui n'a pas d'autres instructions. C'est pour ça que Veilleux, dans sa traduction des règles de Pacôme, traduit par uninstructed, et je pense que ce mot n'est pas exactement ce que veut dire Pacôme, en tout cas ça peut égarer. Ce n'est pas qu'il n'est pas instruit, c'est qu'il est mal instruit, qu'il est mal dégrossi. Donc ce moine rudis recevra une formation sur les règles de la vie en communauté à observer et apprendra par cœur des extraits de l'Ancien et du Nouveau Testament. Avant tout, hein, les psaumes, toujours les mêmes, les psaumes, et les épîtres des apôtres. J'aurai l'occasion de revenir, j'en ai déjà parlé par le passé, mais j'aurai l'occasion de revenir sur ces choix hein, de texte. Alors l'autre cas, c'est celui de l'analphabète, hein, celui qui literas ignorabit, qui ne connaît pas les lettres, c'est-à-dire illiteratus, et qui correspond au grec agrammatos. Là encore, un terme très souvent associé, comme on l'a vu, au moins dans la littérature. Alors cet analphabète recevra un enseignement, il devra suivre des cours 3 fois par jour auprès d'un maître qui lui sera désigné. Et Pacôme donne des détails sur le contenu de cet enseignement. On lui apprendra les syllabes, hein, qu'on notera pour lui sur un cahier, on lui apprendra les syllabes, les verba et les nomina. On retrouve les éléments basiques de l'enseignement du grammatistes, du grammatiste, l'apprentissage, après les lettres de l'alphabet, des syllabes et des mots en grec onomata, que nous avions suivi pas à pas l'an dernier avec le papyrus Bourian numéro 1. Ici, Pacom fait la différence entre deux types de mots. Les verba et les nomina. Alors, VIE, toujours dans sa traduction des règles de Pacom, en anglais, hein, traduit par « the verbs and nouns », les verbes et les noms. Mais je ne sache pas que ces deux types de mots aient été systématiquement distingués et enseignés séparément. Quintilien, on l'avait vu l'an dernier, dans les parties de son institution oratoire consacrée à l'instruction, à l'enseignement élémentaire, Quintilien ne parle que de nomina. Et en tout cas, si tel avait été le cas, on s'attendrait à ce que les verbes, avec leur morphologie un peu particulière et en grec assez complexe, soient traités après les noms. Donc je suis partisan de donner à nomina le sens de nom propre et à verba le sens plus général de mot, en l'occurrence de nom commun. Nous avons vu, en effet, avec le papyrus Bourian 1, et je vous donne juste le tout début de la partie qui devait suivre l'apprentissage de l'alphabet, nous avions vu qu'après les syllabes, eh bien, les enfants se voyaient proposer des listes de noms qui mêlaient noms communs et surtout noms propres, permettant d'enrichir à la fois avec les premiers leur vocabulaire et avec les seconds leur connaissance de littérature et d'histoire. Ces listes étaient souvent ordonnées par nombre de syllabes. Alors, les mots monosyllabiques étaient en règle générale des noms communs, tandis que les noms propres commençaient à apparaître, à devenir presque systématiques à partir des mots disyllabiques. Et c'est le cas ici, vous voyez, Ajax, Atlas, etc. Tout ça, ce sont des noms propres, alors que les mots monosyllabiques, à quelques exceptions près, sont tous des noms communs. Tout cela pourrait expliquer justement l'ordre verba nomina du texte de Pacom. Ce texte de Pacom doit être rapproché d'un passage d'une lettre que Jérôme adresse en 413 à Pacatula, au sujet de l'éducation de sa fille. C'est l'épistula, la lettre 128 de Jérôme. Alors, il s'y exprime en des termes très proches du texte de Pacom, qu'il a traduit quelques années auparavant. Dans un premier temps, avant d'atteindre l'âge de 7 ans, eh bien, la fille de Pacatula doit se contenter, nous dit Jérôme, de savoir les lettres de l'alphabet, literularum, elementa, d'assembler les syllabes, iungat syllabas, et d'apprendre d'apprendre les nomina, discat nomina, et d'associer les verba, verba consociet. Alors vous voyez, on retrouve dans ce texte les nomina et verba dans une phrase qui suit les diverses étapes du grammatiste. Apprendre les lettres de l'alphabet, les combiner en syllabes, syllabas, passer aux mots isolés, en l'occurrence aux noms propres qui sont majoritaires dans les listes de mots d'origine biblique, comme le souhaite Jérôme, j'aurai l'occasion d'y revenir, puis aux mots en tant qu'ils se combinent pour former des phrases, c'est-à-dire les verba. Alors, je donne une interprétation qui est différente, par exemple, de celle que le traducteur et l'éditeur des lettres de Saint Jérôme a donnée en 1961 dans la collection des universitaires de France, qui propose de traduire qu'elle se contente de savoir les lettres de l'alphabet, d'assembler les syllabes, d'apprendre les noms et de leur associer les verbes. En fait, il donne à ces mots le même sens que Veilleux donnait pour le texte de Pacôme.
Je pense que ce n'est pas cela. Mais par ailleurs, je constate que les éditeurs et les traducteurs de cette lettre ont proposé de nombreuses interprétations très différentes. Mais en tout cas, l'interprétation que je propose repose sur les textes scolaires, sur les papyrus scolaires, comme par exemple le papyrus Bourian 1. Enfin bref, ces règles de Pacôme, vous voyez, sont tout à fait décisives, hein, décisives pour notre enquête. Elle prouve qu'au moins dans les monastères de type pacomien, monastères cénobitiques, eh bien était dispensée une éducation élémentaire organisée selon la pédagogie traditionnelle du grammatistes et du grammaticos, à ceci près que les textes qui étaient choisis pour apprendre à lire et à écrire eh bien, sont des textes scripturaires. Donc ces règles relativisent, comme on pouvait s'y attendre, le stéréotype du moine refusant toute culture et se détournant des livres. Le texte de Pacôme n'envisage d'enseignement que destiné aux moines. Il n'évoque pas l'âge des bénéficiaires de cet enseignement. Et donc, il faut nous demander maintenant si l'enseignement monastique a pu concerner aussi les enfants et si ceux-ci pouvaient venir de l'extérieur. Et ce problème, cette question, pose le problème des rapports entre monachisme et enfance, les rapports que le monachisme a pu entretenir avec l'enfance. Alors l'enfant, conçu alors comme un être non fini, non raisonnable, juridiquement non responsable, l'enfant constitue a priori un triple danger pour les moines. Laissez les enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, rappelle Jésus dans l'Évangile. Oui, mais appliqué au monachisme, ce commandement peut mettre la communauté monastique dans l'embarras. Aussi faut-il s'entourer de précautions pour éviter tout faux pas. La première est de réglementer l'âge auquel on peut devenir moine. Alors, il n'y a rien dans les règles de Pacôme sur le sujet, mais en revanche, Basile de Césarée, dans le IVe siècle, s'est intéressé à cette délicate question. Alors, nous lui devons un recueil de règles, l'Asceticon, constitué de deux ensembles, les Regulae Fusius Tractatae, qu'on appelle les grandes règles, et les Regulae Brevius Tractatae, les petites règles. La règle où il traite de l'âge minimum pour devenir moine est dans le premier recueil. C'est la grande règle 15. Alors, qui se présente sous la forme de questions-réponses. C'est un type de format qui était très utilisé dans la pédagogie de l'époque. Question. À partir de quel âge faut-il permettre de se consacrer à Dieu et considérer l'engagement à la chasteté comme valide ? Réponse. Le Seigneur a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants », tandis que l'apôtre loue ceux qui ont étudié les Saintes Écritures dès leur enfance et exhorte à élever les enfants dans l'instruction et la discipline du Seigneur. Alors, je vous ai mis les références au texte biblique entre parenthèses. Nous considérons donc qu'il convient que ceux qui se présentent, au monastère, soient accueillis à tout moment, même dès la première enfance. Ceux qui ont perdu leurs parents, nous les recevrons pour devenir, à l'envi de Job, père des orphelins, et ceux que leurs parents eux-mêmes nous amèneront, nous les admettrons en présence de nombreux témoins, pour ne pas donner occasion à ceux qui la cherchent et pour fermer la bouche à ceux qui nous calomnient. Pour cette même raison, continue-t-il, il faut les recevoir, certes, mais pas d'emblée. Il ne convient pas de les mettre au nombre et au rang des frères dans la communauté, de peur que la honte d'un insuccès ne rejaillisse sur la vie consacrée à Dieu. Alors, Basile, après, évoque la façon d'élever les enfants, j'y reviendrai. Avant de conclure, la conclusion est intéressante. C'est donc lorsque l'âme est encore malléable, tendre et molle comme la cire, capable de recevoir facilement les formes qu'on lui donne, qu'il faut chercher, qu'il faut sans tarder l'exercer au bien. Lorsque survient la raison et qu'arrive le jugement, elle peut prendre son essor, forte des notions élémentaires reçues auparavant et de la formation à la piété qui lui aura été donnée. La raison lui montrera l'opportunité de bien faire et l'habitude lui en procurera la facilité. Alors, on pourra admettre à la promesse de chasteté, promesse enfin sûre, formulée avec jugement et conviction personnelle, en plein exercice de la raison, par suite de quoi récompenses et punitions seront distribuées par le juge équitable à ceux qui s'y conformeront ou à ceux qui l'enfreindront selon le mérite de leur action. Comme témoin de cette résolution, il faut prendre les supérieurs ecclésiastiques afin qu'ils consacrent le corps du prophète, donc de celui qui fait profession, qui a prononcé ses vœux, comme une offrande faite à Dieu et confirme la valeur de la profession par leur témoignage. Car il est dit, toute parole sera confirmée sur la foi de deux ou trois témoins. Hein, extrait de Matthieu 18-16. Ainsi, d'une part, on ne pourra blâmer le zèle des frères, et d'autre part, celui qui sera voué à Dieu ne trouvera aucune excuse à son impudence s'il veut s'en aller dans la suite. Pour celui qui n'embrasse pas la vie de chasteté parce qu'il lui est impossible de s'appliquer aux choses de Dieu, eh bien, il sera congédié devant les mêmes témoins. Enfin, celui qui s'engage doit réfléchir longuement et il convient de le laisser délibérer plusieurs jours en lui-même pour ne pas avoir l'air de l'attirer malgré lui, mais ensuite il faut le recevoir et le mettre au nombre des frères en lui donnant la participation à la table et au logis des prophètes. Alors vous voyez, les enfants orphelins ou ceux qui sont déposés dans le monastère à la demande des parents sont accueillis dès leur plus jeune âge, mais ne pourront s'engager définitivement dans la voie monastique et donc professer la chasteté qu'à l'âge de raison et après mûre réflexion. Basile ne veut pas qu'il y ait d'équivoque sur la vocation des moines. Les enfants sont reçus devant témoins, plusieurs fois il utilise ce terme de témoins, sont reçus devant témoins et à n'importe quel moment qu'ils changent d'avis ou qu'ils ne souhaitent pas se conformer aux règles, eh bien, l'enfant peut partir. Alors, l'histoire a apporté, apportera de nombreux contre-exemples à la règle que propose Basile. Ainsi, le futur igoumène Héliodore a été confié par ses parents au monastère à l'âge de 3 ans, nous raconte Théodoré de Cyre dans son histoire des moines de Syrie, l'histoire Philotée. Par ailleurs, le 6e concile écuménique de 692 abaissera l'âge recommandé par Basile à 10 ans, qui était là l'âge de responsabilité religieuse selon Timothée d'Alexandrie. Quoi qu'il en soit, le monastère reçoit des enfants, c'est clairement dit, qu'ils soient orphelins ou confiés par leurs parents. Et nous verrons qu'il y a en fait bien d'autres cas que ceux envisagés par Basile. Alors l'autre péril que représentent les enfants pour les moines est le sujet d'un apophtegme des pères du désert, un apophtegme anonyme. Des frères qui rendait visite à un saint vieillard vivant dans un endroit désertique, trouvèrent des enfants devant son monastère en train de nourrir des animaux et de tenir des propos déplacés. Après lui avoir révélé leurs pensées et avoir profité de sa connaissance, ils lui dirent « Abba, comment tolères-tu ces enfants ? Ne leur dis-tu pas d'arrêter d'être grossier ou agité ?» Le mot grec est ambigu, peut avoir ses deux sens. Bon. Le vieillard répondit: il y a en effet des jours où j'aimerais bien le leur dire, mais je me réprimande en disant « Si je ne supporte pas cette petite gêne, comment vais-je résister à la grave tentation si elle se déchaîne sur moi ?» C'est pourquoi je ne leur dis rien, afin d'avoir des réserves de patience, pour supporter les choses qui peuvent m'arriver. Alors, vous le voyez avec cet apophtegme, les enfants sont considérés comme une nuisance pour celui qui a embrassé la vie monastique en se retirant loin des turbulences du monde. Aussi, les législateurs ou les régulateurs de la vie monastique ont-ils été d'emblée mis dans la nécessité de réglementer la place des enfants dans la vie du monastère, en commençant par Pacôme. Pacôme qui, dans ses Praecepta et Instituta 18, interdit aux moines de rire au milieu des enfants, hein, non rideat inter pueros. Et dans ses Praecepta et Judicia 13, il tente de mater la tendance des enfants au jeu et à l'amusement. Si dans une maison il y a des garçons à donner au jeu et à l'oisiveté, et qu'ils ne s'amendent pas lorsqu'ils sont réprimandés, le maître de maison doit les admonester et les punir pendant 30 jours. S'il les voit persister dans leur dépravation, sans en informer le père, et qu'il soit pris en flagrant délit, il sera lui-même puni à leur place selon le péché découvert. Donc vous voyez, ça ne plaisante pas, hein, discipline stricte, sévère. Mais les paralipoménas, hein, les paralipomènes, qui est une série de récits dont Pacôme est le protagoniste, et qui ont été transmis en grec et en syriaque à côté des vies de Pacôme, avec lesquelles ils entretiennent des points de contact, ces paralipoménas contiennent une anecdote qui montre que Pacôme, tout en se voyant obligé, hein, d'encadrer la vitalité, je dirais, des enfants, pour la bonne marche de ces monastères, eh bien, avait la conscience de la nécessité de les traiter avec moins de rigueur que les moines. Alors que, selon cette anecdote, il vient d'arriver au monastère de Vbo, hein, que vous avez vu sur la carte, en Haute-Égypte. Il est accueilli par des moines, ainsi qu'un enfant du monastère, nous dit le texte, qui se plaint que... alors, c'est l'enfant qui se plaint que, depuis sa dernière visite, puisque Pacôme régulièrement rendait visite au monastère qu'il avait fondé, depuis sa dernière visite, eh bien, on avait servi à manger ni légumes, ni bouillis, dit le texte. Pacôme découvre que le cuisinier s'est tout simplement reconverti dans la fabrication de paniers, ou de nattes, plus exactement, après avoir constaté que, par souci d'abstinence, les moines ne voulaient plus rien manger. Pacôme demande à ce qu'il recommence à faire la cuisine, arguant que pratiquer l'abstinence n'est méritoire que si cela suppose des renoncements et que si les moines ne peuvent renoncer à rien, et que les moines, du coup, ne peuvent renoncer à rien si on ne leur sert rien. Et donc, il termine sur ces mots. Les enfants en particulier ne sont pas capables de persévérer dans la vertu à moins qu'on leur accorde un peu de détente et un petit confort. Voilà qui vient relativiser ce que nous donnaient les Praecepta juste avant. Basile, de son côté, s'il accepte, comme nous l'avons vu, que les monastères accueillent des enfants, demande à ce que ceux-ci vivent séparément des moines, soit soumis à un règlement particulier, soit encadrés par un moine suffisamment expérimenté pour canaliser leur énergie. C'est toujours dans cette grande règle numéro 15... pour ces raisons et tant d'autres motifs de convenance, il faut séparer l'habitation des enfants de celle des frères. La demeure des ascètes, qui sont déjà formés, ne sera donc pas non plus troublée par les leçons et les exercices. Hein, le grec dit ente melete ton didegmaton, hein, ce sont les cours nécessaires pour les jeunes. Cependant, les prières, déterminées aux différentes heures du jour, seront communes aux uns et aux autres, car les plus jeunes s'habituent à la componction en suivant l'exemple des anciens, et ceux qui les éduquent reçoivent dans la prière un secours appréciable. On fixera convenablement pour les enfants un régime particulier et un règlement spécial pour ce qui regarde le sommeil et l'éveil, l'heure, la quantité et la qualité de repas. Donc, vous voyez, on retrouve ce que nous raconte l'anecdote des paralipoménas de Pacôme. On mettra à leur tête l'ancien qui aura le plus d'expérience et qui sera connu pour sa patience. Avec une paternelle bonté et par de sages paroles, il redressera les erreurs des enfants et donnera à chacun le traitement qu'il convient à sa faute afin de punir le coupable et d'exercer en même temps son âme à maîtriser les passions. Alors, Plus tard, les canons de l'abbé Chénouté, hein, supérieur du monastère blanc, près de Sohag, et chef d'une congrégation. Je vous ai mis ici un portrait assez ancien qu'on a trouvé dans le monastère rouge, si je ne m'abuse, de Chénouté. Eh bien, les canons de Chénouté évoquent souvent les enfants et leur enjoignent de maîtriser leur langue ou leur interdisent, par exemple, de désobéir, de répondre, de rire. Hein, par exemple, le numéro 52, apprenez-leur à maîtriser leur langue pour ne pas marcher dans les actes de débauche, de rire, de dissolution, de bavardage et de paresse. Chénouté était quelqu'un d'assez strict, hein, vous le voyez. Bon. Le canon 419, hein, quant aux hommes à qui l'on a confié des enfants et qui ne se soucient pas qu'ils se conduisent avec complaisance, qu'ils jouent avec eux et qu'ils s'amusent avec eux, eh bien, ils doivent être déchargés de cette charge, car ils ne sont pas aptes à s'occuper de ces enfants, de même les femmes à qui l'on a confié des filles, puisqu'il envisage aussi les monastères de Monial. Et puis, le canon 568, « Le Seigneur maudira toute personne âgée qui plaisante ou rit avec les enfants ». Vous voyez qu'il ne plaisante pas, justement. Alors, le principal risque identifié très tôt par les inventeurs et les propagateurs du monachisme, eh bien, c'est la promiscuité physique des moines avec les jeunes, propre à en tenter certains. Alors, c'est un risque qui est signalé par la règle monastique qu'Antoine aurait dictée à, je cite hein, le titre, à ses fils, les moines du couvent de Nacloun, quand ceux-ci le lui demandèrent. C'est un texte qui ne nous est parvenu que dans sa version arabe. Cette attribution de ce texte à Antoine, évidemment, trop généreuse, mais ce texte n'en est pas moins intéressant eu égard aux peu de règles monastiques égyptiennes qui nous sont parvenues, hein, les communautés ne ressentant pas le besoin de mettre par écrit le règlement, à l'exception justement de celle de Pacôme. Et ces règles sont aussi intéressantes du fait qu'il s'agit de la première règle conçue pour une lore et non pour un koinobion. Alors, si elle est abusivement attribuée à Antoine, elle semble bien avoir été conçue pour le monastère de l'archange Gabriel, hein, le Der el-Malak Gubrial, appelé aussi Der el-Nacloun, hein, qu'on appelle communément Nacloun, qui est un ancien couvent encore en activité qui est situé sur le plateau au pied du Gabel el-Nacloun, à la bordure sud-est du Fayoum. On est à 15 km de Medinet el-Fayoum. Et c'est un site qui a été étudié et fouillé par le Polish Center of Mediterranean Archaeology dans les années 90-2000. C'est un vaste complexe monastique, ou lore, qui était formé par une constellation d'ermitages disséminés. Alors, je vous montre une carte, vous voyez, hein, voilà le monastère moderne, ça c'est le monastère ancien qui a été fouillé, et dans la montagne, partout, eh bien, on avait des ermitages éparpillés. Voilà. Donc, il est probable que ce koinobion, ce monastère, résulte de l'agrégation d'ermitages à partir de 630 et donna naissance au monastère qui se dresse au pied de la montagne. Alors, Eva Wyszypska est la première à avoir étudié cette règle attribuée à Antoine. Elle situe sa date de rédaction entre le milieu du IVe siècle, époque où les moines de Nacloun vivaient exclusivement dans la montagne, et la création du koinobion, dont je viens de vous parler. Alors, que nous dit justement cette règle au sujet des enfants? Alors, voilà le texte. Vous avez la référence, si l'ensemble du texte vous intéresse, je vous ai mis la référence, mais je ne m'intéresserai qu'à l'article 4 et 5. « Ne parle ni avec un adolescent, ni avec un jeune enfant, et ne le fréquente point, ne le retient pas pour en faire un moine, ne prend pas quelqu'un ne prend pas quelqu'un pour enfant spirituel avant qu'il ne prenne l'habit, afin qu'il ne se réconcilie pas avec le diable ennemi. Et c'est la règle suivante qui nous met sur la voie de ces tentations auxquelles ce diable ennemi soumet le moine, qui contreviendrait à cette règle, ne dors pas sur une même natte avec un plus jeune que toi. Donc c'est bien la tentation sexuelle que représente l'enfant qui explique les interdictions formulées dans cette règle avec bien plus de rigueur que celle de Pacôme. L'isolement de l'anachorète explique que ce règlement destiné à une lore fasse preuve de plus de sévérité quant à la présence des enfants que les règles encadrant, disons, la vie cénobitique. Alors le péril que représentent les enfants fit tellement peur au premier moine, conscient du problème, qu'il prend même des allures de menace apocalyptique dans un des épophtègmes des Pères du Désert, un apophtègme attribué à Isaac le Thébain. Abba Isaac le Thébain dit aux frères, « N'amenez pas d'enfants ici, car quatre églises à Sété sont devenues désertes à cause des enfants. » Alors, la peur des enfants, qui est plus forte chez les moines non cénobites, ne les a cependant pas empêchés d'être présents dans les monastères, et même en grand nombre, ce que nous verrons la semaine prochaine. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.